France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Lisa Delmoitier, Morgane Cavignan, Alexis Le Rossignol, Alexandre Cominec, Tanguy Pastureau est là aussi, tout le monde pour accueillir Jacques Attali. Bonjour.
Bonjour Léla.
Bonjour Jacques, soyez le bienvenu au micro de la bande originale. On va parler ensemble d'histoire et avenir de la consolation. C'est un texte publié chez Flammarion dans la catégorie chant essai. Vous embrassez l'histoire de la consolation à travers les temps, à travers les religions. On a plein de questions à vous poser et on va ensemble essayer de trouver peut-être des réponses à nos besoins de consolation. On commence toujours l'émission par un blind test, Jacques Attali, autour du thème de notre invité. On va voir ce que j'ai déterminé comme thème. Qu'est-ce que j'ai pu faire autour de Histoire et Avenir de la Consolation ? Premier titre.
Tanguy, oui. C'est Gérard Blanc.
Absolument Tanguy.
Soleil dans la nuit ?
Non.
Non. Une autre histoire.
Une autre histoire. Premier point pour Tanguy. Ça s'écoute fort, ça.
Ouais. En 205 GTI. Clairement. Pardon. Hein, mais...
Jacques, vous l'écoutez fort cette chanson ? Non, pas vraiment. Deuxième titre.
Alexi, Kids United.
Non.
Morgane aussi.
Morgane,
Loan.
Oui.
Luan.
Qui l'a dit en premier, c'est Tanguy ? C'est Morgane.
Ah oui, très bien.
La régie dit Morgane, donne le point à Morgane.
La régie a raison.
C'est Luan. Un point pour Tanguy, un point pour Luan qui parle d'avenir.
Oui.
Tout à l'heure,
oui,
on disait une autre histoire, on fait histoire, avenir.
Ah, d'accord.
J'ai pas trouvé de chanson et de consolation. Pardon, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Troisième titre.
Ça, Morgane, c'est Dalida, histoire d'un amour.
Bravo.
Tu es ma sœur.
Bah oui.
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal avec l'air où l'on s'en lasse.
Histoire d'un amour de Dalida, parce que la consolation, il peut en être question aussi en matière amoureuse, bien entendu. Quatrième titre.
Black M.
Ils opportunistes à grands coups de triche. Ça fiche des dommages collatéraux, collard à tiche.
C'est que j'adore
pas. Non, ça va vous étonner.
Trio.
C'est une des.
Non, je vais reconnaître le Gizmo là, le chanteur.
C'est trop drôle que tu dis pense
non,
à Trio.
Ouais. Histoire de.
Un indice. C'est une chanteuse.
Une chanteuse.
C'est une des chanteuses les plus adulées en France, qui se fait très rare.
Mylène Farmer.
Absolument, c'est Mylène Farmer. Histoire de fesses.
Ah ouais.
Mylène Farmer.
Sans l'indice, jamais j'aurais.
Qu'est-ce qui lui est arrivé au niveau des cordes vocales ? Non, on la reconnaît.
Un petit
peu.
Travail sur la voix.
Ah, un petit
un
travail.
Un petit travail sur la voix. Trois points pour Morgane, un point pour Tanguy.
Pas une ablation.
Cinquième titre.
C'est un travail. Ah, Tanguy, c'est Cille. Cille.
Bravo, Tanguy. Tu as le titre ?
Ah non, évidemment.
Future Love Paradise.
D'accord.
Il reste deux titres. Jacques, je suis sûre que vous pouvez en trouver un, vraiment. Il en reste deux, c'est parti, avant-dernier.
Alexandre, Bibi Flash.
Bravo, juste sur ça.
Bibi Flash.
Bibi Flash.
Le gars se couche pas tôt le week-end.
Histoire d'un soir.
On oublie nos galères, ce soir on sort et on oublie tout.
J'ai failli la mettre en super banco et je me suis dit c'est toi qui vas la trouver. Il en reste un.
Et donc l'idée c'est d'être pas surtout pas favoriser Alexis.
Non, c'est qu'il m'en fallait 7.
C'est
que
ça, ça là, c'est antisémite.
Oh non. Je peux pas avoir tous les mots, hein, vraiment. Dernier titre.
Voilà, Tanguy, Bob Dylan.
Non.
Sommes nous.
Lisa.
Ah, Kelly. Oh, pardon.
Ouais. C'est une histoire de Lisa Delmoitier. Le titre de Kelly, Pensons à l'avenir. On l'a reçu il y a peu de temps dans l'émission, dans la bande originale. Et c'est donc une victoire méritée par Lisa Delmoitier.
Bravo, bravo. Voilà, Belgique.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddou.
Bravo Lisa, bravo, voilà. Très très fière de commencer cette émission avec une victoire de Lisa Delmoitier. Est-ce que vous avez pensé à l'avenir justement en vous attelant à cette thématique, Jacques Attali ?
Comme toujours, quand j'essaie de réfléchir à l'avenir, j'ai réfléchi d'abord au passé, j'essaie de comprendre comment on faisait les choses dans le passé. Je l'ai fait dans beaucoup de domaines et évidemment quand j'ai essayé de comprendre comment on allait se consoler dans l'avenir avec les nouvelles technologies, avec tous les enjeux qui viennent, est-ce qu'on va se consoler de façon traditionnel, comme on le fait depuis 30 siècles, ou est-ce qu'on va trouver de nouvelles façons ? Et c'était très très intéressant de faire ce voyage.
C'est vrai, parce qu'on voyage en effet dans des rites dont on a oublié l'existence, des choses plus contemporaines et un avenir assez étonnant. Vous retracez ainsi toute cette histoire totale, avec toutes les questions que ça peut soulever. Qu'est-ce que vous entendez par consolation déjà ?
C'est la façon d'affronter un chagrin, qu'il s'agisse d'un chagrin d'amour, d'un deuil, d'une peine liée à une rupture de quelque nature que ce soit, d'une défaite, de tout ce qu'on peut imaginer. Et comment on l'affronte pour essayer de vivre avec ou de le dépasser. En fait, il y a des constantes. On commence par refuser. Ensuite, on essaie de vivre avec, et puis ensuite, on le dépasse. Et chaque société a trouvé des façons diverses d'organiser ce rituel d'étapes successives de la consolation. Sachant qu'il y a des choses, évidemment, légères, dans lesquelles la consolation est facile, des choses plus lourdes. Et la plus extrême semble être la perte d'un enfant, qui dans toutes les civilisations a toujours été considéré comme le chagrin le plus intolérable.
Indépassable même, c'est vrai. Vous l'évoquez dans le livre, il y a tous les rites qu'on peut observer chez les anciens, les Grecs, les Romains, dans les religions aussi, on fait cette traversée-là.
Comment, dans les sociétés animistes aussi, dans les sociétés hindouistes, dans toutes les religions, avec aussi mille formes. Parler, se taire, manger, jeûner, faire silence, s'isoler, être au milieu de la foule.
Ne pas toucher le corps,
ne pas toucher au contraire,
l'entourer.
Il y a mille formes différentes qui renvoient toutes au désir de la maîtrise, en fait.
C'est ça. Et à chaque fois... aussi la vengeance qui est...
La vengeance est une des formes de la consolation, avec la vengeance libre, c'est-à-dire anarchique, et puis la vengeance ritualisée, sous la forme du bouc émissaire, qui a donné d'ailleurs l'essentiel du religion. C'est d'ailleurs pas une surprise que dans la religion chrétienne, le messie... est un bouc émissaire, et le mot messie en hébreu veut dire consolation. Donc le bouc émissaire est une forme de consolation, puisque d'une certaine façon il nous prépare à l'idée que nous avons une vie éternelle par la résurrection, donc qui est une des formes très importantes dans la plupart des civilisations de la consolation. On se retrouvera plus tard.
J'ai l'impression que la consolation, c'est un thème très d'actualité, comme s'il y avait un besoin impérieux de consolation en ce moment.
C'est un thème universel, c'est un thème de tous les temps, puisque...
Mais pourquoi aujourd'hui encore plus, j'ai la sensation ?
Pas spécialement plus, nous sommes toujours... Chaque fois que j'ai traité un sujet, quel qu'il soit, je me suis retrouvé à voir qu'il y avait une dimension de relation à la mort dans tous les sujets, et à la vie donc. Et donc aujourd'hui, comme de tous les temps, nous avons cette relation à la mort qui nous occupe, même si on passe l'essentiel de notre temps depuis toujours, on ne l'a pas cité parmi les formes de consolation, à essayer de l'oublier, la distraction dont parlait Pascal en disant que c'était la forme principale de la consolation. Et donc, à un certain moment, la consolation sous forme de distraction ne suffit pas, et puis elle nous éclate à la figure, comme cherchant la chose plus nécessaire. Et aujourd'hui, il faut voir que la consolation est aussi très dangereuse, parce que quand on se console, on ne se rebelle plus.
Oui.
Alors que dans certains moments, il ne faudrait pas du tout se consoler, il faudrait au contraire se révolter et agir pour... c'est ce que j'appelle la consolation préventive, c'est-à-dire créer les conditions pour ne pas avoir à être consolé, ni à avoir à consoler d'autres. Mais aujourd'hui, on est tellement entouré de sujets difficiles, c'est pas forcément l'esprit de cette émission que de parler de ça, mais on est tellement entouré de sujets difficiles que que la consolation nécessaire. J'ajoute un sujet, une forme de consolation dont on n'a pas parlé, mais qui s'impose ici, c'est le rire.
Le rire, absolument.
D'ailleurs, dans les traditions de peuples particulièrement martyrs, comme le peuple juif, les histoires drôles jouent un rôle essentiel.
Oui, oui.
Rire est une façon de se consoler. Parfois, on a cette image bien connue de ce prisonnier politique qui va être fusillé et qui rit devant le peloton d'exécution. On en a plusieurs images de ce genre. Le rire est un défi, est une forme de consolation pour soi et pour les autres.
Et puis, vous interrogez aussi celui qui est consolé, celui qui console aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on y met de soi? On va en parler tout au long de cette émission, Jacques Attali. C'est passionnant. Tout de suite, dans la bande originale, c'est Lisa Delmoitier. Eh oui, Lisa! Parce que Lisa n'aurait pas fait votre livre comme ça, Jacques Attali.
Ah bah non.
Et voilà. Écoutez-la bien.
Jacques Attali. Non, la vie c'est dur, les gens ils sont méchants, on va tous crever. Moi j'ai besoin d'être consolée, Jacques Attali, vous voulez me prendre mes doudous, c'est ça? Moi je passe ma vie à me consoler, vraiment, à combler le vide en moi. La clope, le téléphone, l'alcool, le sexe, la bouffe. Moi je suis un trou sans fond. C'est pas un tube digestif, c'est le chapeau de Mary Poppins. Oh. Enfin, je rêve ou la bouffer une enclume là. Non, votre livre vise tellement dans le mille, hein, cette idée que tout ce qu'on fait pour se calmer, c'est pour nous calmer notre peur de la mort. Et j'essaie de moins me consoler, hein. J'ai arrêté de fumer, boire. Voilà. J'essaie d'arrêter de manger quand je suis repu aussi. Mmh. Parce qu'un médecin m'a dit qu'on est censé manger que quand on a faim. Mmh. Voilà. J'avoue que j'ai un peu du mal avec celui-là. Moi, ma vie, c'est juste une longue série de comportements compulsifs entrecoupés de siestes, grosso modo. C'est chronique déjà. T'en écris une par semaine, t'as une passion pour les blagues. T'en écris une par jour, t'as un problème, ma fille. Qu'est-ce que tu fouilles là? Vous voyez ce jeu à la foire où une taupe sort de plusieurs trous et tu dois taper sur sa tête avec un marteau, mais dès que tu la chopes, elle ressort par un autre trou. Mais c'est ma vie, ça. Dès que je tape sur une addiction qui me console, ok, j'arrête de fumer, il y en a une autre. 8 heures de temps d'écran quotidien sur mon téléphone.
Oh là là,
ok,
ouais.
J'avais pas besoin de ma rétine de toute façon. C'est vraiment, c'est que ça ma vie, quoi. Plus je fume, moins je bois. Plus je travaille, moins je scroll. Plus je baise, moins je bouffe. Voilà. Non, mon summer body se fait au lit, hein, grosso modo. Weight Watchers, c'est bien, mais il n'y a quand même pas meilleure coupe-fin que la fellation. Je crois que ça va.
Oh non.
Je crois que ça vaut 8 points.
Oh non,
8 points.
Deux sneakers. J'en viens à un point où je n'essaie plus de me priver de mes doudous, mais j'essaie juste de choisir le doudou le moins pire. Moi, j'ai un jour été accro au sport au point de plus avoir mes règles. Bon, faut dire, c'était un sport de beauf où il fallait soulever des poids. Donc, le corps humain est malin. Hein. Il doit soulever des haltères en training en gueulant. Il se dit, elle, c'est pas demain la veille qu'on va la mettre en cloque. Inutile d'envoyer la sauce aux œufs ce mois-ci.
Oh non, Aucun
ovule ne va se faire féconder de ce côté-ci du Basic Fit. En même temps, est-ce que c'est pas chiant une vie sans consolation? Est-ce que c'est pas passer à côté de sa vie que d'y renoncer? Moi, je me dis que l'existence humaine, c'est comme un parc d'attraction avec de la bouffe, du cul, des soirées, de l'argent, de la drogue, vu que j'ai payé l'entrée, je serais con de pas en profiter, quoi. Quand je vais au strip club, je prends une lap dance, quoi. Voilà. Je suis pas là pour regarder. Mais il y a des consolations nocives, et il y en a d'autres aussi. Hein. Jacques, vous parlez des drogues, par exemple, mais vous parlez aussi de l'art. Hein. On peut se consoler avec de l'art. Donc peut-être qu'on doit pas renoncer à tout, mais choisir des consolations moins mauvaises. Mais rien que la drogue, bon... C'est vrai que tu prends de l'héroïne, tu détruis ta vie, mais tu prends de la coke, tu deviens président. Donc, bon, bien sûr, on peut aussi mettre complètement fin à ce besoin de consolation en acceptant la mort, c'est aussi une possibilité. Mais je sais pas, les gens qui acceptent la fin, qui méditent 3 heures par jour en disant de pas t'attacher, moi ils me font chier. Ah, moi, ça me touche, les gens qui se débattent contre la mort, quoi. C'est comme quand un caniche te grogne dessus, t'es là, hein. T'essayes de faire peur à qui, là? Mais c'est mignon, moi, j'aime trop voir tous les petits trucs que les petits gens font autour de moi pour combler leur vide existentiel, quoi. Alex, il picole, Alexis, il bouffe du flan. C'est fascinant, ce qu'on va faire jusqu'à la mort, quoi. C'est touchant, il y a des gens, ils ont tellement peur de la mort, ils courent des marathons, d'autres, ils font des mots croisés, il y en a même qui écrivent des livres. Bon, c'est ça, Jacques, grosso modo, hein. Vous avez écrit un livre entier pour nous dire, ouais, le livre que vous venez de lire, là, c'est juste parce que j'ai peur de crever. Donc, fallait que je m'occupe, merci de le lire. Et finalement, la 2000e chronique que je viens de vous lire, ben, c'est aussi parce que j'ai peur de crever.
Bravo, Lisa Delmoitier. Lisa Delmoitier, vous pouvez aller applaudir sur scène. Elle est tous les jeudis à la Nouvelle Scène à Paris, c'est tout simplement.
C'est 8 points.
Voilà. C'est 8 points. Wet Witcher, on retiendra ce repère-là. C'est vrai, Jacques Attali, vous consolez comment Lisa vient de parler, et vous l'évoquez dans le livre, bien sûr, comment par la consommation de sucre, de nourriture ou éventuellement de drogue, on remplit un vide, on se console. On a tous ce réflexe.
Si j'avais à livrer quelques petits secrets dérisoires, je dirais le chocolat.
Ah voilà.
Voilà.
C'est votre drogue à vous.
Et la musique.
Et la musique, justement, vous en parlez. Les seuls exemples très intimes que vous donnez dans le livre, c'est la musique. Vous parlez du Salve Regina, du concerto pour piano aussi de Rachmaninov. Ce sont vos seules façons de vous consoler?
Non, il y en a bien d'autres. D'abord, les amis, les amis, les amours, la tendresse. Mais c'est vrai que ce concerto de Rachmaninov m'accompagne souvent quand j'ai quelque chose en tête.
Donc c'est un signe, quand il y a cette musique-là autour de vous, c'est qu'il y a un signal qui s'active.
On va le débarquer sur du Rachmaninov.
Mais, attention.
Mais le chocolat, c'est quand même quelque chose de formidable.
Le chocolat, ça c'est aussi addictif, comme plein d'autres de substances. Mm. C'est vrai que la consolation, en fait, dans le livre, elle peut passer par la musique, par l'écoute aussi, vous en parlez, l'écoute d'un ami, l'écoute d'un proche, par les gestes.
Et là, le consolé et le consolateur sont dans le même bateau, parce que on console, mais on est consolé en consolant. Et on est même en situation de, à la fois de trouver du plaisir, d'être en situation relative de supériorité, parfois un peu malsaine. Il a besoin d'être consolé, je console, donc moi je suis mieux que lui, puisque je ne suis pas en situation d'en avoir besoin. C'est une situation un peu étrange.
Vous parlez d'altruisme intéressé,
voilà,
en fait. Hein.
On est intéressé dans cet altruisme, puisqu'on se trouve en situation relative de supériorité, même si elle est hypocrite et illusoire. Et puis on sait qu'on aura un jour besoin, donc c'est comme les gens qui assistent à des funérailles, ils se demandent comment ça se passera le jour des leurs.
Qui vous a dit vous avez le droit à 24 heures de découragement?
C'est François Mitterrand.
Et oui, je me doutais bien. C'est là aussi, il y a peu d'éléments très intimes en fait que vous livrez dans cette histoire totale de la consolation, mais vous dites que vous êtes assez rarement à vous épancher en fait sur ce qui vous arrive.
Oui, cette phrase m'avait beaucoup marqué. Un jour où j'avais quelques soucis, il m'avait regardé dans les yeux, il m'avait dit, vous avez le droit à 24 heures de découragement, et ça m'avait été extraordinairement utile.
C'est vrai.
Extraordinairement utile, et je m'en sers parfois auprès d'amis quand ils sont confrontés à des moments difficiles.
Et il y a même des conseils donnés, en tout cas par de grands philosophes, pour se porter auprès d'un être cher et de le consoler, c'est de ne pas nier sa souffrance, mais de ne pas non plus l'enfoncer dans cette souffrance. Il y a des étapes très très précises que vous
Alors,
listez.
Alors oui, il y a toute une série d'étapes. Vous avez raison, vous citez il y a plusieurs lettres que je cite de grands écrivains la période romaine en particulier, puisque c'est le moment où on a ses premières lettres, où quelqu'un qui console dit « écoute, ça suffit ».
C'est ça.
C'est irrémédiable, on n'y peut rien, faut passer à autre chose. Et en particulier, il y a une lettre de Cicéron, il y a une lettre de Sénèque, des lettres magnifiques, adressées soit à leur mère, soit à leur épouse, dans des circonstances particulières, où ils disent « oui, le chagrin c'est bien, mais il faut passer à autre chose
oui. ».
C'est irrémédiable. Et plus tu essaies de te consoler, plus tu demandes de la consolation, plus tu t'enfonces dans la souffrance. Il faut vraiment penser que la consolation n'est qu'une façon de faire durer la souffrance,
oui.
qu'il vaut mieux passer à autre chose.
Et c'est donc accepté par cette vision-là philosophique que la mort est inéluctable,
voilà.
qu'on ne peut rien contre elle.
Pas seulement la mort, beaucoup de chagrin.
Beaucoup de choses,
par exemple,
oui.
une rupture amoureuse.
Oui.
Ou
je prends le cas de la mort parce que c'est quand même très orienté sur la mort. Oui,
non, mais j'ai pris en effet le fil conducteur de la mort, mais en rappelant à chaque fois que
ça peut fonctionner
quand on est trahi par un ami, eh bien, c'est une mort. C'est la mort d'une amitié, on remet en cause le passé, on se demande pourquoi ça s'est passé comme ça, etc.
Donc il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas, c'est très stoïcien,
c'est
voilà. Et
qu'on ne peut plus, parce que c'est pour ça que je parle de consolation préventive, si on veut. Par exemple, quand on se trouve avec quelqu'un qu'on ne voit plus, qui est mort, et puis on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment passé assez de temps avec lui? Est-ce que je n'ai pas manqué tellement? Il m'est arrivé, parfois, comme tout le monde,
de ces regrets-là.
Et là, on se dit, il faut essayer de ne pas avoir ce genre de regrets, de passer du temps, d'écouter, d'apprendre. Le nombre de gens dont j'ai pas appris autant que j'aurais dû apprendre parce que j'ai passé à autre chose d'une façon futile, souvent. C'est des choses auxquelles il faut prendre garde pour conduire sa vie.
Ce sont les conseils, en effet, qui sont aussi distillés dans ce livre. Se dire qu'avant, que la consolation, finalement, c'est pas la meilleure réponse au chagrin.
Non, la meilleure réponse, c'est de créer les conditions pour qu'il n'ait pas lieu.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un enseignement qui est très riche, qu'on tire à la lecture de votre livre. On a évoqué la période des philosophes, où il faut affronter la mort sans artifice. Et c'est un peu je parle de la mort encore de façon précise, parce que j'aimerais en arriver aussi au rite funéraire et à la religion, au rapport de la religion qui, en matière, en guise de consolation, nous explique aussi qu'il y a quelque chose après la mort.
Alors, d'abord, il faut bien se rappeler de cette évidence, c'est que jusqu'il y a très peu de temps, on souffre beaucoup. Hein. Les moyens de calmer la douleur, c'est dans les années... Il y a moins d'un siècle qu'on commence à calmer la douleur. Et la mort précoce, c'est très récent. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de calmer la douleur dans une très grande partie du monde qui n'a pas accès à ça. Et la mort précoce, en particulier des enfants, c'est une banalité dans la plupart des situations, jusque malheureusement aujourd'hui encore, comme on le voit même dans les situations de conflit. Donc, la présence de la mort était beaucoup plus grande avant qu'elle ne l'était, donc on avait plus d'occasion de se satisfaire.
La vie était très fragile.
Voilà. Mais pour autant, elle était intolérable. Et donc, de tout temps, on a inventé face à ça, vu révéler, selon la façon dont on le croit, différentes formes de relations avec l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce qu'il y a mille et une formes de religion. Il y a peut-être eu, 10 000 religions sur la planète. On compte 600 récits différents du déluge dans les différentes religions. Il y a au moins 10 000 religions sur la planète. Et ils ont beaucoup de constantes. Et en particulier, des dieux, un ou plusieurs, ça dépend, mais malgré tout, il y a presque toujours un dieu principal. Et presque toujours, il y a l'idée de il se passe quelque chose après la mort.
Après.
Sinon, ça n'a pas de sens. Et le quelque chose, ça peut être soit...
Donc on console par l'espérance d'une vie après, dans l'après.
Alors, ça peut être ou une vie après, ou un paradis dans lequel on se retrouve fusionné dans une âme unique qui peut être Dieu. C'est le cas de beaucoup de civilisations qui en arrivent ça. Soit directement, soit dans beaucoup de civilisations, en passant par la résurrection. Qui peut être une fois ou un nombre infini de fois, comme on trouve dans les religions hindouistes, mais pas seulement. Le judaïsme contient aussi cette idée de transmigration des âmes, c'est-à-dire des âmes qui se réincarnent. Après un passage provisoire dans un enfer ou un paradis, on va dans le paradis et l'enfer, puis au bout d'un certain temps, on retourne dans une âme et on revient à l'infini jusqu'à arriver à l'état final qui est le nirvana dans le bouddhisme, moksha dans l'hindouisme et d'autres noms dans d'autres religions, mais qui est assez commun à un très grand nombre de religions, y compris des religions qu'on retrouve en Amérique, dans le monde amérindien, qui en fait vient de la Sibérie. Donc il y a, et en Afrique évidemment aussi. Donc il y a une très grande constante de la consolation par on se reverra ailleurs.
Oui, c'est ça. Voilà. On ne se quitte pas définitivement. Il y a l'enveloppe charnelle qui, elle,
n'a pas d'importance.
Elle est incinérée le plus souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de rites, surtout quand on appartient à une partie riche de la population.
C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans les sociétés occidentales, le cimetière a été considéré comme un endroit sans importance et même combattu. L'Église catholique, depuis sa création au 2e, 3e siècle jusqu'au 19e siècle, fait tout pour qu'on n'aille pas dans les cimetières. Tout simplement parce que le cimetière, c'est le corps qui est là, et ce qui est important, c'est l'âme. Donc, le cimetière n'a pas d'importance. Et c'est simplement à partir du moment où apparaît la laïcité, l'esprit des Lumières, la raison, la remise en cause de la religion, qu'on fait basculer la consolation de l'Église vers le cimetière. Même si le cimetière est à côté de l'Église, on va dans le cimetière, mais moins dans l'Église. Parce que on rejoint au souvenir. Et c'est à ce moment-là que les cimetières...
On côtoie les morts, ainsi.
C'est à ce moment-là que les cimetières deviennent des parcs, des lieux où on a envie d'aller, etc.
Et des lieux aménagés, des lieux de promenade, des lieux de vie, en fait, tout simplement.
Exactement, et des lieux très importants, parce qu'une société qui n'est pas capable de donner du sens à la mort est intolérable, et donc elle est vite balayée. C'est pour ça que dès que la raison l'emporte sur la foi, d'une certaine façon, ou disons, combat la foi d'une façon crédible, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle dans l'Occident,
oui.
Il faut que le cimetière prenne de l'importance puisque les églises en perdent.
C'est ça, on voit à quel point il y a un glissement qui intervient, qui va se faire au profit aussi des médecins qui vont, eux, voilà. Intervenir de plus en plus dans la consolation.
Ils sont des acteurs essentiels de la consolation, mmh. Encore aujourd'hui.
On est passé de Dieu, le seul être qui consolait, globalement, à tout d'un coup,
les différentes formes d'accompagnement.
Les pompes funèbres.
Oui, et puis les différentes formes d'accompagnement dans les soins palliatifs, oui. Etc. Et autres. Avec évidemment un rôle essentiel dans la famille. Mais là encore, on parle de la consolation majeure sur oui. Le cas du rituel funéraire, mais ça se produit aussi dans le chagrin d'amour ou dans l'amitié trompée, qui est aussi quelque chose de très important, dans le licenciement, dans la perte de confiance en soi, dans beaucoup de choses moins irréversibles en apparence que... Oui.
Que la mort,
mais qui renvoie quand même exactement aux mêmes structures de besoins humains.
Et c'est là que les philosophes sont d'un grand secours, comme Sénèque. Il faut cultiver la mémoire du disparu. Il faut aussi, alors on viendra aux oraisons funèbres, hein, tout ce voilà. Genre-là qui s'est créé autour de la célébration, qui a une dimension quand même politique. Mais ne pas chercher à se consoler, c'est aussi accepter de laisser la place au chagrin et considérer que le temps doit faire son œuvre. C'est aussi une façon.
C'est une certaine étape. Qui est franchi quand on accepte le chagrin et on le vit avec, parfois vivre de façon excessive avec le chagrin. Mais vous avez raison, il y a des étapes, et je cite dans le livre des lettres absolument magnifiques, écrites par Sénèque, Cicéron et quelques grands auteurs grecs et romains, qui sont des textes d'une modernité extraordinaire, comme beaucoup de ces textes de cette époque. Malheureusement, on n'en a pas perdu énormément. Puis ensuite, c'est vrai qu'après, on a inventé d'autres formes. Les oraisons funèbres, très importantes, où on vient dire le bien compensé de celui qui est parti. Alors, il y a d'abord les oraisons très célèbres des grands de ce monde, puis il y a aussi les oraisons qu'on fait souvent au cimetière pour des amis.
Ou qu'on fait au Panthéon.
Ou qu'on fait au Panthéon dans les sociétés laïques, ou aux Invalides, plus fréquemment, ou même peut-être très fréquemment, peut-être certains diraient trop fréquemment.
Trop fréquemment, peut-être.
Et puis, il y a... les lettres. j'ai beaucoup.
Les lettres de consolation, oui.
Voilà, les lettres de consolation. Et puis il y a une technique dont j'ai fait d'ailleurs un roman antérieurement, qui est ce qu'on appelle les livres de raison, où chacun, avant de mourir, écrit une lettre à ses enfants. Et ces lettres sont collectées dans un livre. Et il y a des livres de raison qui collectent ces livres depuis le XIVe siècle. Il existe encore de ces livres de raison.
Je me suis demandé justement, en voyant ces nouveaux outils à cette époque-là apparaître, comme si vous aviez, vous, déjà, écrit votre livre de raison.
J'en ai écrit sous forme romanesque. Oui. J'ai écrit un roman qui m'est très cher, qui s'appelle d'ailleurs « Le livre de raison ». Mais
dans la vie.
Dans la vie, non. C'est les testaments font aussi partie des livres de raison. Même si on fait parfois des testaments, on doit faire des testaments, ne serait-ce que de façon, logistique.
Mm-hmm.
Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on écrit pour combler la peur de la mort. C'est vrai. On écrit en se disant, bon, il y aura toujours mes livres sur une étagère de bibliothèque.
Ça va rester.
On n'oubliera pas. C'est un peu peut-être illusoire, mais en tout cas. Mes livres de raison, ce sont mes livres.
Ce sont vos livres. Ouais. Et justement, on vous invite à vous plonger dans Histoire et Avenir de la Consolation aux éditions Flammarion dans la collection Chants, Essais. C'est un inédit de Jacques Attali qui embrasse toute l'histoire de la consolation. Et nous, on va embrasser Morgane Cadignan dans la bande originale. Ah oui! Toute Morgane Cadignan. Bonjour.
En avant, bonjour. Oui. Les amis, j'ai lu la récente enquête sur le harcèlement scolaire. 5% des enfants sont victimes du CE2 au CM2. Ça n'a pas l'air fou comme ça, mais attends, 5% c'est déjà énorme, disait Valérie Pécresse au présidentiel. Elle ne le disait pas comme ça parce que c'est pas Philippe Manœuvre. Mais blague à part, c'est énorme, c'est un élève par classe en moyenne. Du coup, je me réjouis des préventions pour le harcèlement scolaire. Enfin, contre le harcèlement scolaire. Oui. C'est une faute de français que je fais très souvent, ça. Genre journée pour la violence faite aux femmes. C'est contre, bien sûr, sinon ça fait une campagne un peu étrange. Face au manque de violence faite aux femmes, tous vigilants. Si vous voyez une femme en paix, un seul geste, la clé de bras. Parce que chaque gifle compte.
Ah oui.
Rendez-vous sur www.adrienquatennens.org. Non, c'est important de communiquer sur le harcèlement scolaire, mais je crois qu'au fond, les gamins, ils commencent à savoir qu'ils peuvent parler à un adulte. Faut surtout éduquer les adultes à être à l'écoute et à ne pas minimiser. Oh, ça va, moi, de mon temps, je me faisais chahuter, ça t'apprend la vie. Bah oui, mais ça t'apprend quelle vie, Michel? La tienne? Ta vie à toi qui arrive pas à dire je t'aime à ton gosse hors funérailles et qui pleure pas autrement qu'en disant non, mais c'est parce que je suis en colère. Un enfant, un gosse, c'est pipelette à la base. C'est pour ça que j'en ai pas un enfant. Seigneur, ça jacte, quoi. Et pourquoi t'as du ventre dans le dos, maman? Oh, les mardis Domino's Pizza, Gabin. Et pourquoi il est noir, le monsieur? Parce que ça rit Roselmack. Et elle est où, mamie, quand elle est morte? En enfer. Et c'est qui, mon papa? Bon, allez, qui veut de la pizza? Donc, un enfant qui ne parle pas,
c'est ça.
Un enfant qui ne parle pas, il est peut-être pas dans la lune, il est peut-être dans la merde. Quand je vois à 33 ans à quel point je n'arrive pas à gérer une insulte, je sais pas comment on faisait entre 10 et 18 ans, aux âges où t'es le moins armé pour tout et où, rétrospectivement, t'es franchement laid. Moi, je me suis fait un peu moquer à l'école et en repensant à mes harceleurs, je comprends de ouf. Honnêtement, là, cas particulier, j'ai revu des photos de moi en troisième, énormément de chance d'être en vie. Hein. Je dis pas que j'ai vécu une enfance difficile.
Attends,
non, pas du tout. Mais moi, j'ai été en léger surpoids à l'époque de la mode des jeans taille basse. Voilà, donc en gros, j'ai été engoncée de 98 à 2010. C'est terrible. Sur chaque photo, on dirait un peu un Mr Freeze coincé à mi-paquet. Et là, la cruauté des enfants, elle était déjà ce qu'elle est. Mais nous, notre génération, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc les insultes s'arrêtaient à 18h. Pour ceux qui avaient des parents sains, pour les autres, écrivez le scénario, ça peut prendre une palme à canne. Hein. Après, attention, il y a là que là, j'essaye de vendre une série sur une enfance heureuse. Les diffuseurs sont frileux. Mais, c'est terrible. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça s'arrête pas. C'est comme avoir quelqu'un qui te suit et qui te dit en boucle, t'es moche, suicide-toi, jusqu'à chez toi et qui t'insulte jusque dans ton lit. Waouh, je dors avec Natacha Saint-Pierre ou quoi? Référence aux déjà un peu ringardes, mais je me permets la vanne vu qu'on parle d'histoire de collégienne. Moi, par exemple, j'étais amoureuse d'un garçon de ma classe et j'avais pas encore les méthodes de séduction de la Morgane adulte. Ne rien faire et attendre qu'il devine tout seul. Et,
c'est bien ça.
Et s'il se passe rien, dire qu'il est impressionné par les meufs drôles. Hein.
Je t'adore.
Donc je lui ai envoyé un mot, j'ai écrit « Tu veux sortir avec moi ?» avec une case à cocher oui et une case à cocher non.
Ah, bravo.
Et il m'a répondu, il a lu le mot devant moi, il a refait passer le mot par des camarades et il a répondu en cochant non et en écrivant à côté « Car tu es moche et grosse ». À quel moment dans la consigne j'ai demandé de justifier ta réponse, connard? Redescends, Guimauquet, je t'ai pas demandé une lettre, fallait juste cocher. J'ai mis le mot dans ma trousse en restant très digne, parce que bon, déjà qu'il me trouve moche quand je pleure pas. N'empêche que ce jour-là m'a marqué alors que j'ai vécu une fois de manière isolée, contrairement à plein d'enfants. Je me souviens qu'on avait musique juste après. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, en cours de musique, on reprenait pas Zao de Sagazan en canon pour balancer sur TikTok. On avait flûte. C'est tout. Pas d'autres instruments, pas de chant. Flûtasse, sec, sans artifice. Et nous, on apprenait au mari de Johnny à la flûte. Et j'en ai pris des râteaux dans ma vie, hein, mais très peu où j'ai claqué les accords de Omari premier degré dans le quart d'heure qui a suivi. Ah bah j'ai plus appris la résilience ce jour-là qu'en enterrant mon père, quoi. Franchement, avec le gars qui me regardait jouer de la flûte en se disant bah elle va bien finir par la manger sa flûte notre petit porcinet là. Moi j'ai jamais eu de suicide dans mon collège alors que j'ai grandi dans l'est de la France, bordure Ardennes, un endroit où dans chaque épisode de On de la raconte, oh bah tu reconnais un voisin. D'ailleurs on parle pas assez des gens qui ont vécu dans l'est de la France. Il est où notre hashtag les gars? Il est où notre podcast engagé, hein, les minorités là ouin ouin à longueur d'année? Ouais. Mais un arabe qui a grandi à Thionville, il sait pourquoi il chiale. Écoutez vos enfants, écoutez vos gosses, harcelez-les pour qu'ils vous parlent. De toute façon, ils sont déjà harcelés en classe, ils seront pas dépaysés. Et s'il y a des enfants qui nous écoutent, la scolarité, c'est pas toute la vie. Ceux qui vous harcèlent aujourd'hui vous demanderont des places pour l'avant-première de votre film dans 10 ans. Courage à tous.
Bravo, bravo. Bravo Morgane Cadignan. On parlera justement de la consolation pour les plus jeunes avec Héloïse Junier tout à l'heure, qui sera notre invitée spécialiste pour revenir à ce thème de la consolation. Alors il y a en effet la flûte de Morgane pour consoler, et puis il y a la musique aussi, celle que Jacques Attali écoute pour trouver cet apaisement. On va plonger dans votre bande originale, Jacques Attali. Elle commence en 1963 et vous écoutiez.
Georgia.
Oh, wow.
Georgia.
Tout le monde chante en régie aussi.
The whole day
through.
Just an old sweet song.
Si la consolation a une voix, ça pourrait être celle de Ray Charles.
Oui, encore aujourd'hui, je ne me lasse pas d'entendre cette voix sublime. Cette voix sublime, cette chanson sublime et cette voix et cette vie sublime. J'ai eu la chance de le voir en concert. C'est un être surnaturel, vraiment.
On est en 63, vous êtes à Polytechnique. Mm-hmm. Vous écoutiez beaucoup de musique en travaillant. Vous êtes capable de faire ça ?
Oui, oui.
C'est vrai.
J'écris en musique, oui.
Et mais même avec des musiques où il s'agit de, où il y a des paroles, ça vous empêche pas ?
Non, ça m'empêche pas. Mm. Pour être honnête, j'écoute surtout de l'opéra, mais j'écoute aussi quelques chanteurs que j'aime beaucoup. Et quelques chanteurs récents aussi.
Quand on parle de vos années à Polytechnique, il est dit que jamais on ne vous a vu dans un café, jamais dans une fête, jamais avec une fille, toujours en train de travailler.
Bah, jamais avec une fille, ça dépend, c'est peut-être plus confidentiel. Mais, mais c'est vrai que j'ai consacré ces années où on a entre 18 et 23 ans, ouais, à travailler. J'étais pas spécialement doué. Mais j'étais doué pour le travail. Mmh. Et j'ai beaucoup travaillé. Et je n'ai pas regretté.
Vous avez, lors de cet examen, je ne sais pas si on peut dire que vous n'étiez pas vraiment doué, ou alors si vraiment tout vient du travail, c'est très rassurant aussi. Hein, l'examen que vous passez en février 64, c'est un examen avec 14 questions qui est conçu pour durer 5 heures. Vous mettez 2 heures à répondre à cet examen. Vous obtenez 19 sur 20. Et celui qui vous suit au classement a la note de 3.
Wow. Oui, c'était pas
ça
un examen, c'était
un fossé. Ça s'appelle un petit fossé derrière.
C'était une feuille perdue.
C'était une épreuve de maths à Polytechnique à l'intérieur de l'école. Et ce jour-là, oui, en effet, j'ai eu une sorte de.
Ça s'appelle plier le game.
De transcendance. Oui.
De transcendance.
Ouais, oui, j'ai. Pas facile à expliquer, ouais, ça ici, mais une sorte de dépassement intérieur qui était dû au travail. J'avais beaucoup travaillé, j'avais ce sentiment de...
Nous aussi, on se dépasse beaucoup ici. Hein. Vous pouvez
porte,
nous l'expliquer.
Voilà.
Hein, on a tous traversé cette transe, hein, oui, vraiment, voilà, au moins une fois dans notre existence.
Et donc, en effet, ça m'a... Mais c'est le travail. C'est le travail.
Ouais. Ça veut dire que rien n'est perdu si on aime travailler. Parce que c'est ça, même
c'est
si
ça.
On est...
Je pense que la seule qualité...
C'est une qualité quand même, ça
la
aussi.
La seule,
hein,
qualité, c'est la niaque.
Mais elle vient d'où, cette niaque ?
Alors justement,
et comment on la transmet, surtout, voilà, parce qu'une fois qu'on l'a, c'est super, mais comment on la donne ?
Il y a plusieurs façons de faire. Il faut peut-être créer le plaisir de la niaque. Il faut aussi créer la peur. Pour moi, ça a été la peur. J'avais une extrême peur d'échouer. Mmh. Et cette peur d'échouer m'a accompagné quelques années. Ensuite, je ne l'ai plus. Mais
ça peut être paralysant et handicapant, la peur d'échouer.
Moi, ça a été un moteur. Oui. Mmh. Pour moi, je ne peux pas donner ça comme un conseil universel, mais... Ça a été un moteur de dépassement. Et puis ensuite, le dépassement est venu par lui-même, par le plaisir de faire et le plaisir de travailler.
Donc pas de consolation en matière scolaire pour vous, Jacques Attali.
Non, ça, j'ai pas eu besoin de ça.
Vous n'avez jamais eu besoin de ça. On passe à l'année 70.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant
la mauvaise réputation. Vous avez déjà eu mauvaise réputation, Jacques Attali?
Ah oui, bien sûr, je suis encore aujourd'hui avec plein de gens. Il y a tellement de fausses nouvelles, de mensonges sur les réseaux sociaux, de fausses citations de moi d'ailleurs, comme
c'est
ça arrive,
d'accord,
bien sûr. Oui, oui, ça existe.
70.
Mais Brassens, c'était le chanteur préféré de mon père. Et donc, comme mon père était quelqu'un de très, très, très important pour moi, je ne peux pas l'écouter sans penser à lui.
70, c'est aussi votre entrée au Conseil d'État, mm-hmm, où vous ne perdez pas votre rythme effréné de travail, puisque ce n'est pas le genre d'institution où on se repose.
Oui, en même temps, j'étais déjà professeur à Polytechnique et j'avais publié, enfin, j'étais en train de publier mon premier livre, oui.
Analyse économique de la vie politique et modèle politique. Vous obtenez même le prix de l'Académie des sciences pour ces textes-là. Ces années au Conseil d'État, vous avez quelle ambition en entrant là-bas ?
Oh, c'était très, très simple. J'avais l'ambition d'être un écrivain utile à la société. C'est toujours été mon ambition. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi d'aller au Conseil d'État, c'est parce que ça me laissait beaucoup de liberté pour écrire et voyager, travailler. J'étais en même temps, d'ailleurs, à ce moment-là, consultant aux Nations Unies, je voyageais déjà beaucoup.
On parlait tout à l'heure de cet altruisme un peu intéressé quand on console quelqu'un, quand on veut être un auteur utile à la société. Quelle est sa part d'égoïsme là-dedans ?
Elle est totale. Quand on écrit, c'est parce qu'on a envie d'être lu. C'est d'ailleurs un acte incroyablement narcissique, puisqu'on estime que les autres vont trouver de l'intérêt à vous consacrer du temps. Le temps, c'est la chose la plus rare, la plus précieuse. Quand on demande aux autres de vous consacrer du temps en vous lisant, ou vous en passant du temps avec moi, c'est un acte incroyablement égoïste. Oui. Alors, mais en même temps, on a l'impression que si on le fait, on va être utile d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un altruisme intéressé ou un égoïsme rationnel.
On passe à l'année 74.
Ah.
Chopin. Pardon.
On a un moment de grâce et puis on a Morgane Cadignan qui nous fait Chopin.
Chopin.
Voilà, c'est la bande originale. C'est, mais bienvenue, Jacques Attali.
Oui, c'est...
Oh, on peut pas se refaire. Qu'est-ce que vous voulez, Jacques?
Moi, j'ai reconnu.
On est comme ça.
J'ai joué ça au piano, en effet, depuis tout petit et... Et ça m'accompagne tout le temps, encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, ça évoque quelle image en vous, quand vous revoyez quoi? Enfant, vous voyez quoi devant vous, en train de jouer cette nocturne de
D'abord, ce nocturne, je ne l'ai pas joué tout de suite, parce qu'il n'est pas si simple qu'il n'y paraît, mais Chopin m'a accompagné tout le temps. C'est un de mes musiciens préférés, romantique et d'une grande pureté. Et
il n'y a pas une image qui vous vient de l'enfance? De ces années-là.
Ma mère, me forçant à rester au piano, alors que je voulais arrêter, et elle a bien fait de me forcer, parce qu'après j'y ai trouvé beaucoup de plaisir en ayant. Vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, ouais. Pour les maths, à un moment, il faut dépasser, il faut que l'effort nous permette de trouver du plaisir.
Ouais. Ben, je crois qu'il y a plein de parents qui adoreraient trouver ce petit déclic avec les enfants, trouver ce moment de plaisir. On est en 74, Jacques Attali. Vous devenez responsable de la campagne présidentielle.
Oui, c'est exactement au jour pour jour, il y a 50 ans.
Ah, c'est vrai.
Georges Pompidou est mort et François Mitterrand confie à un inconnu total, c'est-à-dire moi, la responsabilité de sa campagne présidentielle.
C'est fou quand on y repense.
Oui, ça m'est tombé dessus, puisqu'il l'a annoncé sans me demander mon avis. Et...
Qu'est-ce qui fait que c'est une sorte de coup de cœur
Oui, c'est ça.
Pendant plus de 20 ans,
on s'était vu deux, trois fois avant, quelques fois de loin, parce que j'avais fait mon stage de l'ENA dans le département dont il était président, mais on s'est vu en tête à tête deux fois avant, quand il annonce que je vais diriger sa campagne. Et ça a été un coup de cœur intellectuel qui a duré entre ce jour-là et à la fin de son mandat.
Vous aviez le bureau juste à côté du sien.
Dix ans plus tard.
Pardon ?
Quelques années plus tard.
Oui, quelques années.
Sept ans plus tard.
Quelques années.
Vous avez échoué.
On a échoué. C'était la meilleure campagne. C'était la plus passionnante parce que Pompidou étant mort, on a improvisé une campagne. Trouver des locaux. Je ne savais pas ce que c'était que faire une campagne. C'était extraordinaire. C'était vraiment une aventure incroyable. Je dirais de toute façon, heureusement qu'on a perdu parce qu'on n'était pas vraiment prêts. Et 7 ans plus tard, D'accord. On était beaucoup plus réfléchis. J'ai dirigé aussi la campagne suivante, beaucoup plus prêt pour gagner
et pour gouverner. Comment garder justement un lien, j'imagine, intact dans une relation avec toujours un respect mutuel? Il y a une position quand même de domination, de supériorité, de statutaire quasiment.
Ça a été le seul patron que j'ai jamais eu dans ma vie, puisque tous les autres métiers que j'ai faits, j'étais libre. C'était pas mon père, parce que j'avais un immense respect, admiration et amour pour mon père. C'était une sorte d'oncle. Je crois que la raison, c'est qu'on était extrêmement différents. Que j'attendais rien de lui. J'ai refusé d'être ministre et quoi que ce soit d'autre. Et je me sentais parfois en grand désaccord avec lui, mais pas assez pour claquer la porte. Et j'avais toujours en face de moi quelqu'un qui avait un sens de l'intérêt général, une volonté de laisser une trace dans l'histoire, qui menait des combats qui m'étaient très chers. Je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble, du premier au dernier jour. Donc c'était une sorte de connivence, et on parlait très peu de politique en fait.
D'accord.
On parlait beaucoup de religion, de philosophie, de toutes sortes. La politique, on avait une telle communion intellectuelle que ça allait de soi en fait.
La politique, ça doit être un univers où la consolation est souvent convoquée. On parlait tout à l'heure de trahison, de...
Ces animaux-là ne sont pas en situation d'être consolés. Ce sont des...
Mais vous, face à ces animaux-là?
Moi, je me suis toujours tenu à l'écart.
Mais...
J'ai toujours trouvé que c'était... Il y a des hommes d'État qui ont l'obsession de la trace qu'ils laissent dans l'histoire et du bien qu'ils font au pays, et puis il y a des gens qui font carrière. Je viens de terminer de lire deux livres très importants que je recommande, qui sont l'histoire de la chute de la Troisième République, les derniers jours avant la prise du pouvoir de Pétain, et le procès Pétain. Et là, on s'aperçoit que cette classe politique-là, comme une large partie de la classe politique d'aujourd'hui, ne sont que des narcisses minables qui ne pensent qu'à leur carrière et qui ruinent le pays à cause de ça. C'était vrai en 40. Et c'est pas loin d'être vrai encore aujourd'hui.
En 2024, on passera à l'année 94.
Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes.
Morgane, c'est qui?
Barbara. Il
n'y
a plus d'accent là.
Il n'y a plus d'accent avec Barbara, Nantes. Pourquoi cette musique, Jacques Attali?
D'abord parce que j'étais très, très ami de Barbara. Elle a eu la gentillesse même de me demander d'écrire une chanson pour elle. Ensuite parce que cette chanson est évidemment très importante, puisque c'est le chanson où elle avoue, où elle reconnaît, où elle dit la tragédie de sa relation avec son père. Parce que rien n'est plus consolant que de penser à une amie très chère disparue beaucoup trop tôt et qui savait consoler quand il m'est arrivé d'avoir des chagrins et d'aller la voir pendant ces moments-là. Et parce qu'elle a passé du temps à consoler bien des gens, à la fois tous ceux qui l'écoutaient, mais on sait moins qu'elle a passé beaucoup de temps dans les prisons à parler avec des prisonniers atteints du sida. D'ailleurs, la raison pour laquelle on s'est rencontrés. Il n'y a rien de plus consolant que de penser à un ami disparu ou une amie, grande amie disparue.
94, c'est la création de votre cabinet Attali et Associés. Vous êtes vraiment votre propre patron là vraiment, oui. Et vous allez à la rencontre de qui, de quoi, de grands groupes, de politiques. Comment est-ce que
on essaye d'être utile dans le monde en essayant de conseiller pour la transition écologique, les grands enjeux de l'avenir, tant des gouvernements que des groupes, des associations, des individus. On essaie d'être utile.
En 95, vous écoutiez ?
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul. Mais je t'aperçois.
Jacques Brel.
Oui, bon, j'ai choisi ces chansons, j'aurais pu en choisir d'autres, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont il a géré sa vie et son rapport à la mort, la façon dont il a pris une distance, dont il a voulu revenir à l'essentiel de lui-même, être lui jusqu'au bout. Je trouve que c'était grandiose, et la façon dont aussi, dans sa jeunesse, il a réussi à échapper à la vie qu'on lui imposait, puisqu'il n'aurait jamais dû être Jacques Brel s'il avait suivi ce qu'on lui imposait. Je trouve que Jacques Brel était, que j'ai eu la chance de voir sur scène à plusieurs reprises, était vraiment un symbole de la liberté jusqu'au bout, depuis le début jusqu'à la fin.
95, c'est la parution de Manuel, l'enfant rêve, un conte pour enfants.
Oui.
Illustré par Philippe Drouillet.
Oui.
C'est aussi important de s'adresser aux enfants, de faire preuve d'utilité à travers ces livres,
oui,
à destination,
oui, oui,
des petits.
Oui, oui. D'ailleurs, moi j'écris toujours pour toutes les générations. Ce conte pour enfants m'avait beaucoup intéressé à faire, en particulier ce dialogue avec ce grand dessinateur qui est Philippe Drouillet. Et puis, j'écris toujours en pensant aux enfants qui peuvent lire, et donc j'écris en pensant que c'est à eux qu'il faut s'adresser, parce que c'est eux qui porteront le futur. Et en particulier, en pensant que c'est important qu'ils lisent aussi.
Oui.
Et qu'on ne perde pas l'importance de cette pratique.
Les enfants et la consolation, c'est justement ce dont on a envie de parler avec notre spécialiste du jour, Héloïse Dunier. Bonjour, merci.
Bonjour,
d'être au micro de France Inter. Vous êtes docteur en psychologie de l'enfant, journaliste, auteur. On va parler tout à l'heure de votre dernier né aux éditions des Arènes. Héloïse, on voulait évoquer la consolation aussi avec les petits. Consoler son enfant, c'est le rôle fondamental du parent.
Et puis, en fait, de base, le rôle du parent, qui est simple en même temps, hyper compliqué à la fois, c'est de répondre aux besoins d'un enfant, les satisfaire, besoins physiques et besoins psychologiques. Et en fait, l'un des besoins psychologiques les plus importants d'un enfant, c'est le réconfort et la sécurité. Donc effectivement, en tant que parent, on devrait pouvoir le faire, mais c'est pas toujours simple. On verra pourquoi.
Et consoler, ça se fait pas de façon préventive avec un enfant?
Et non. Alors c'est vrai qu'effectivement, je me souviens d'un papa, d'un petit garçon de 7 ans, qui était anxieux, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants, qui avait peur de beaucoup de choses, et qui avait un besoin de le consoler avant même qu'il ait émotion, de le surprotéger, d'avoir un environnement comme ça extrêmement confortable pour l'enfant. Et c'est vrai que c'est un risque, en fait, anticiper trop les besoins d'un enfant ou le consoler en prévention, ce serait un peu l'enfermer dans une forme de zone de confort, c'est pas forcément l'aider, même si tous les parents ont cette envie prégnante de faire au mieux pour leur enfant, en fait.
On console son enfant de quoi, en fait? C'est quoi les thématiques de consolation pour un petit?
Alors, tout dépend de l'âge. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les thématiques de consolation évoluent en fonction de leur développement et de leur compréhension du monde. Par exemple, pour un petit, ça va être un petit de 6 mois, ça va être un bruit soudain. Boum, il a peur, on le prend dans les bras, on le console. Pour un enfant...
Donc ça passe par le contact, cette consolation.
Plus c'est petit, ça passe par le contact. Ouais. Quoi qu'adolescent aussi, on peut y aller. Hein, s'ils sont OK, c'est consenti.
S'ils sont OK, oui.
C'est vrai. Et vous voyez, quand on grandit un peu, à 2 ans, ça va être une séparation difficile, à la crèche, par exemple. Puis quelques années plus tard, 4 ans, ça va être une copine à l'école qui dira qu'elle est plus sa copine. Bah, ça, c'est difficile pour un enfant d'entendre ça. Puis à 14 ans, ce sera les premiers amours qui ne sont plus les premiers amours aussi. Donc c'est vrai que chaque âge, et âge adulte, il y a encore d'autres...
Et alors comment on console de ça? Une petite fille qui dit à votre petit garçon « t'es plus ma copine, t'es plus mon copain », qu'est-ce qu'on doit lui dire face à ça?
Ben, l'idéal de l'idéal, quand on est vraiment soi-même hyper à l'écoute, on est disponible ce moment-là, c'est pas toujours le cas en tant que parent, déjà c'est pas mal de pouvoir mettre un mot sur son émotion, genre sur son de la tristesse, de la déception peut-être, pour développer un peu sa compétence émotionnelle. Donc ne pas banaliser. En fait, l'émotion de l'enfant, même si elle nous paraît, nous adultes, pas légitime, elle est légitime pour lui parce qu'il la ressent. Un point c'est tout, de toute façon on fait comme ça. Donc mettre un mot sur son émotion, et puis aussi apporter un aspect un peu rationnel. Voilà, cette copine-là, c'est une copine pour l'instant, peut-être que demain sera encore différent. Puis, cette copine-là, c'est pas non plus toute ta vie. Puis, dans 2 ans, ce sera encore différent. T'as encore d'autres amis. Donc, apporter un côté rationnel tout en considérant l'émotion comme telle, en fait, parce qu'elle est là.
D'accord. Il y a, par exemple, quand on joue aussi, alors moi, c'est une question très personnelle, la gestion de la défaite chez les enfants. Moi, j'adore jouer.
Et les adultes.
Et les adultes. Pardon. Voilà, pardon, mais c'est vrai. Bon, pour les deux. Quand on joue avec son enfant, je ne la laisse jamais gagner si elle ne doit pas gagner, en réalité. Si elle connaît les règles, voilà. Donc, quand elle perd, elle est confrontée à la défaite. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Surtout quand en mordicus, on annonce qu'on ne le laissera pas gagner.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a des parents qui ont très peur de l'émotion de leur enfant quand ils perdent. Ils ont tellement peur de le frustrer qu'ils vont l'enfermer dans une zone de confort où ils vont jamais le laisser perdre. Et en fait, effectivement, c'est pas du tout l'aider. Alors, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez un enfant qui n'est pas dérangé dans le fait de perdre, auquel cas vous avez le bon lot et jouer au loto.
Ça existe vraiment des enfants qui...
Il y en a qui ont un tempérament moins réactif, il y en a qui sont cool. Moi, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas notre cas à tous, peut-être, je ne sais pas, c'est pas mon cas non plus. Soit vous avez un enfant qui a du mal à perdre, et en fait là, votre objectif, ce qui peut être pas mal en tant que parent, c'est d'élargir progressivement sa zone de confort. C'est-à-dire, c'est peut-être le faire perdre une fois sur deux, une fois sur trois, c'est vraiment compliqué.
Ouais.
Et aussi...
L'entraîner
à perdre. Il y en a vraiment qui n'ont jamais perdu, en fait. En fait, il faut réentraîner, mais comme les adultes, j'ai envie de dire. Les adultes,
c'est
la frustration, ils la gèrent aussi super mal, parfois.
C'est vrai.
Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que vous, quand vous perdez en tant que parent, c'est de lui montrer comment vous tolérez, vous, la frustration. Genre avec humour, avec détachement. Et puis, puis en fait, dire que c'est qu'un jeu, et le principal, c'est quand même de jouer, même si on n'y croit pas forcément.
Alors, il y a des sujets plus douloureux que d'autres, dans la consolation. Quand on fait face à la perte d'un être cher, dans l'ordre de la vie, c'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est d'autres proches. Ça, c'est aussi un sujet qui est plus difficile à aborder avec un enfant. Comment on s'y prend?
Et oui, et c'est d'autant plus difficile que les parents eux-mêmes sont extrêmement dévastés, en fait. Oui. Vous voyez, quand ils perdent un jeu de société, bon, nous, on s'en fiche complètement, on s'en fout. Mais alors, quand, par contre, on perd notre père, on perd notre mère, alors là, on est nous-mêmes tellement envahis qu'on a du mal à avoir un aspect rationnel, on a du mal aussi à les consoler pour cette raison-là. Et en fait, le mieux dans ces cas-là, ce serait déjà de dire, écoute, tu es triste et tu as le droit d'être triste. Que, en fait, la tristesse, c'est une réaction qui est normale. C'est éprouvant de perdre quelqu'un qu'on aime très fort. Et tu vois, moi, en tant que parent, je suis triste aussi. Enfin, je suis effondrée, je pleure aussi. Mais tu vois, on peut pleurer ensemble. Donc, mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent en tant que parent, c'est vraiment important, être transparent. Et puis aussi, peut-être rappeler que la mort fait partie de la vie et que peut-être qu'effectivement, un jour, on va mourir, mais tous les autres jours, on va vivre et ça va être super. Et on en profite du coup.
Donc ça, c'est quand on est en âge d'avoir ce dialogue-là avec un enfant, mais quand il est un peu petit, c'est, tout d'un coup, c'est retrouvé à expliquer et la mort et la disparition de quelqu'un.
Mais c'est vrai que les petits ne comprennent pas la mort.
Ouais.
C'est très pratique pour eux. D'ailleurs, ils sont hyper heureux parce qu'ils ne comprennent pas la mort. Donc
Et ils continuent d'évoquer les êtres disparus comme s'ils étaient vivants.
Ah oui, mais c'est comme s'ils pouvaient revenir demain de Carrefour Market. Hein. C'est vraiment...
du Carrefour Market. Héloïse, vous avez une...
Oui. Une vision de la mort.
Petite fille de...
C'est ça le paradis pour vous.
C'est ça le paradis, c'est le Carrefour Market.
C'est ça. Une fille de 4 ans qui me disait « Mon papy est mort, mon papy est mort », comme ça, avec une telle légèreté, alors tout le monde était en train de déprimer à côté. C'est fascinant, quand même. Effectivement, et la mort est vraiment comprise vers l'âge de 8 ans, pas avant. L'irréversibilité, c'est une notion super complexe chez l'être humain, en fait.
Donc, des câlins, des câlins, en gros,
beaucoup de réconfort,
parler, expliquer.
Expliquer la
situation,
dire
la vérité.
Avoir un point de vue rationnel, dire la vérité, et surtout mettre des mots sur ses émotions à lui et sur les nôtres, et la jouer transparente en fait.
Et le faire au bon moment. Héloïse Junier, ouais. Vous avez sorti récemment Les émotions de l'enfant, 7 jours pour tout comprendre, c'est tout frais aux éditions des Arènes. Un mot sur votre livre, vous venez de loin pour cette émission, un mot sur ce livre.
Et ben, en fait c'est une BD, le principe c'est de plonger le lecteur dans 7 jours, dans la vie d'une famille. J'irai pour finir 3 grandes caractéristiques. La première, c'est vraiment toutes les données que j'apporte dans la BD, c'est les données scientifiques. C'est pas mon point de vue, on s'en fiche, c'est vraiment la science qu'elle dit sur le moment. Le deuxième grande particularité, c'est que c'est vraiment, j'ai conçu la BD comme un voyage. C'est-à-dire que j'emmène le lecteur prendre un bain de minuit dans une larme humaine pour voir comment elle est composée, faire un tour du niveau de la préhistoire pour voir comment les ancêtres s'exprimaient. Et surtout, c'est une BD que j'ai voulu vraiment drôle parce que je pense qu'on apprend beaucoup mieux en s'amusant.
Merci beaucoup, Héloïse Junier. Vous avez travaillé avec Mademoiselle Caroline.
Voilà. Exactement.
Voilà, comme ça, j'ai tout cité
formidable.
Pour ce livre aux éditions des Arènes. Merci, Héloïse, d'être venue jusqu'à nous pour nous parler de la consolation en lien avec les enfants. Tanguy Pastureau nous a rejoint. Tanguy, de quoi on parle tout à l'heure?
Je vous parlais d'un joli moment et de belles personnes. Je sais, ça me ressemble pas beaucoup, mais c'est une pianiste, une danseuse, une gare parisienne, la vie, quoi.
Restez avec nous sur France Inter. Notre invité est Jacques Attali dans la bande originale. Retour de la bande originale sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Morgane Cavignan, Alexis Le Rossignol.
Oui, bonjour.
Alexandre Cominac. Ah oui, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité, Monsieur Jacques Attali.
Bonjour.
L'histoire au pluriel et avenir de la consolation aux éditions Flammarion, Jacques Attali. On a évoqué tout à l'heure comment on pouvait être consolé par l'espérance d'une vie éternelle si on aborde la dimension du deuil et la dimension religieuse, comment il faut accepter la décision de l'impénétrable, de pas la questionner et se réjouir de notre prochaine proximité avec Dieu si d'aventure au cours de notre existence nous nous sommes placés du bon côté et que nous avons fait le bien. Une vision religieuse qui est évoquée à travers le judaïsme, l'islam, le christianisme aussi, avec des degrés de différence, bien entendu.
L'hindouisme aussi.
Et l'hindouisme.
Quand vous dites notre existence, il faut le dire au pluriel.
Nos existences,
puisqu'il y a la transmigration des âmes.
C'est vrai, la réincarnation, ce retour à la vie, la transmigration des âmes. On a évoqué la philosophie aussi, qui est un puissant consolateur pour accepter ce qui nous arrive, pour accepter ce qui est impossible à consoler. Finalement. Et puis, il y a aussi le futur, il y a l'avenir, il y a tout ce qu'il laisse entrevoir.
Il y a d'autres formes de consolation qu'on a évoquées, comme le chocolat ou la musique, ou la tendresse ou l'amour. Très importante, évidemment, plus importante que d'autres.
Le cérémonial aussi, que vous détaillez avec précision.
Le bondage.
Mais. Mais à l'avenir, il y aura d'autres formes de consolation. Et étonnamment, cet avenir est déjà là, puisqu'il y a déjà des technologies ou des sites internet ou des applications qui vous proposent de donner à cette application des textes, des voix, des messages de la personne disparue, et qui, à partir de ça, vous crée un double virtuel de cette personne qui va vous répondre avec sa voix, non pas simplement en tenant compte de ce qu'il a dit, mais en extrapolant sur ce qu'il a dit pour donner des réponses originales. Et on a maintenant de nombreux exemples de cet usage. Il y a même eu une dame qui récemment l'a fait elle-même, a créé le double de son compagnon qui venait de mourir. Elle l'a fait toute seule avec les applications existantes. Elle a dialogué avec lui, puis hop, à un certain moment, elle a effacé tout ça.
Elle a pu réussir.
En estimant qu'il valait mieux garder le souvenir que de... Mmh. Mais ça, ça va venir.
C'est l'immortalité de l'âme qui va être remplacée par celle de la donnée, vous dites, des données, des data.
L'immortalité de l'artefact, ce qui renvoie au fait que nous sommes de plus en plus... transformé en être artificiel, en robot.
Ça pourrait être ça l'envie des grands de ce monde d'exister de façon éternelle
de tout temps,
transférant leurs données.
De tout temps, la puissance, c'est la recherche de l'immortalité. Les empires romains, les empereurs romains, comme les rois, ont cherché l'immortalité. Et de ce point de vue, la naïveté des grands de la Silicon Valley rejoint cette idée. L'immortalité par narcissique et égoïste, par le transfert des données, va être une grande banalité. Au fond, s'il y a des milliards de gens immortels, ils sont tout aussi oubliés que s'ils n'avaient pas été immortels.
Cette dimension-là, elle est un peu effrayante. Quel regard vous portez dessus, vous ?
Je pense que ce qui est... Je trouve ça dérisoire. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est ce qui est en train d'apparaître comme une recherche d'immortalité de l'espèce humaine. Et par exemple, il y a une décision très importante qui a fait un peu les titres, mais qui est déjà passée à autre chose. C'est la décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Suisse pour violation de non-respect de la nécessité écologique. Si on en arrive à une recherche d'immortalité de l'espèce humaine en mettant en accusation pour crime contre l'humanité tous ceux qui nuisent à la survie de l'espèce humaine, alors là, on aura fait quelque chose qui a du sens et qui exigera des révolutions extrêmement profondes. Ça, c'est une vraie recherche d'immortalité, de faire en sorte que l'espèce humaine perdure dans ce qu'elle a de meilleur pour créer les conditions de chercher la raison d'être de son existence. Mais ça suppose une mutation extrêmement profonde, tant de nos vies personnelles que de vies collectives, pour prendre en compte l'importance de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre décemment.
Qu'est-ce qui console ? La nature fait partie des éléments que vous citez, avec la raison, l'amour, la musique, l'écoute, les gestes, l'écriture, la littérature, le cérémonial, les lieux aussi, on les avait évoqués avec les cimetières, la distraction, vivre en société aussi, tout ça, ce sont des sources de consolation. L'histoire et avenir de la consolation aux éditions Flammarion, Jacques Attali, et tout de suite dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau. Et vous, Tanguy.
Bien, vous le savez, en ce moment, je parcours la France des cafés-théâtres pour le rodage de mon nouveau spectacle Un monde hostile, qui parle de la violence. Je trouve le climat actuel en France bien trop feel-good. Bon, j'avais envie de plomber les gens. Et donc, je prends le train. Beaucoup. Trop, en fait. Trop prendre le train, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est prendre le train. Alors, je sais que vous dites, oui, Pastureau, ce toubab sous Xanax va encore critiquer les gosses qui chouinent en voiture douce. Eh ben non, parce que maintenant, j'ai une technique pour les calmer. Je les regarde droit dans les yeux et j'arrache avec les dents la tête d'une peluche d'un des chiens de la patrouille. C'est radical. Sur le reste du Paris Mâcon, il y en a plus un qui chouine. On a oublié qu'avant l'éducation positive, la méthode pour élever les enfants, c'était de les terroriser. Le daron arrivait dans la chambre avec en main un martinet et un rictus sur la face qui rappelait les selfies de Francis Holmes. Ensuite, on regardait Shining à 6 ans en disant « Bon non, le personnage principal m'a l'air plutôt équilibré. » Non, dans le train, maintenant, ça va, mais c'est l'ambiance en gare que j'aime pas. Déjà, il y a trop de gens. Même Gare de l'Est, vous regardez le tableau des départs, il y a écrit Metz, Mulhouse, vous dites « Non, je comprends pas l'idée. Hein » Dans les gares, en plus, tout est cher. Il y a plus de sandwicherie à l'ancienne avec le thon crudité à 4 euros, mais des corners. Des corners où la baguette doit être interdite parce que tout est au pain aux 4 céréales, ou aux 6 céréales, ou aux 12. Il y a des pains qui contiennent plus de céréales qu'il y en a dans la nature. Et puis, dernière chose qui me fait horreur, horreur en gare, c'est le piano en libre service. Il y a un piano, les gens jouent. Mais quand je dis les gens, il n'y a pas de sélection. Joue qui veut. Et c'est là qu'on voit les limites de la démocratie. Je dis pas que j'aimerais vivre en Corée du Nord, un pays où le dirigeant est aussi mal coiffé, hein, à part quand on est vendeur des débroussailleuses et on peut se projeter, bon, ça fait pas envie. Je dis juste qu'en gare de Pyongyang, je suis pas sûr qu'il y ait un piano. Et s'il y en a un, on est obligé de jouer des airs à la gloire de Kim Jong-un. Sous les sunlights de Jong-un, fais-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, Jong-un. Oh Kimi, si tu savais... Enfin bon, ce genre de choses, quoi. Non, moi, les pianos dans les gares, c'est pas mon truc. Mais hier, j'ai vu une vidéo qui tourne beaucoup sur le net. Enfin, disons que, par rapport au deepfake porno de Roland McDan, elle tourne beaucoup. Sur cette jolie vidéo, on voit un pianiste de gare qui joue bien. C'est une espèce rare, hein, au même titre que l'antisioniste judéophile ou le journaliste d'Europe 1 a adhérents et les filles. Et là arrive une danseuse en tutu qui se met à évoluer dans l'espace. Ça n'arrive jamais. Dans une gare, des gens tout nus qui hurlent. Ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Ce qui montre l'état de la prise en charge psychiatrique dans ce pays. Mmh. Une fois, il y a même un contrôleur qui a dit que le TGV pour Marseille de 14h37 partirait bien à 14h37. Il a été maîtrisé par les voyageurs et interné, mais c'était trop gros. Cette jeune femme donc danse et dans la gare, tout s'arrête. C'est ça que fait la poésie. C'est une rupture du réel. Une petite foule se masse, hommes, femmes, de tous âges, de couleurs de peau différentes, et l'espace d'un instant, j'ai cru en l'être humain. Je regardais cette vidéo dans le bureau de l'émission, puis Alexandre Cominet qui est arrivé déguisé en pénis. Je lui ai dit c'est pour un sketch. Quoi ? Il a répondu non, pour une soirée. Je lui ai dit mais enfin Nagui n'est pas là. Il a répondu c'est Lila que je viens voir.
Oh
et là, la poésie s'est arrêtée. Il n'empêche que sur un court laps de temps, dans cette gare, une forme de communion s'est faite. Et je crois que partout, on devrait avoir une danseuse classique. Ici, à la bande originale, elle danserait, tandis qu'enfin unis, nous ferions des câlins à Jacques Attali. Parce qu'on parle trop de l'intellect de cet homme, alors qu'il est aussi sans doute une boule de douceur. Ensuite, Alexandre Cominec m'a dit, je l'ai vu cette vidéo, ça se finit mal, car tout se finit mal. Vous savez à quel point ces gens sont névrosés. Hein, je parle des Suisses. Et en effet, sur la vidéo, des agents de sécurité de la SNCF interviennent, la danseuse leur parle, la musique stoppe. En commentaire, les gens sont atterrés. Je lis des « Ah, ça, ils sont plus rapides à venir que quand c'est des racailles. » Des « On peut plus rien faire dans ce pays, hashtag Macron dictature, gna 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 Jean-Michel. » Des « Mais nu dans ton profil. » Parce que maintenant, sous chaque poste, il y a des robots de l'industrie du X, vous savez, avec en photo de profil, une dame qui se lèche tellement haut les lèvres qu'elle arrive à foutre sa langue à 12 cm de profondeur dans ses sinus. Même à l'examen de BTS des arts du cirque, ils demandent pas ça. Je lis tout ça. Le peuple en veut à la SNCF d'avoir cassé l'harmonie du moment. Des premiers brûlons à la gare de Lyon sont rédigés. Et puis BFM interview le pianiste qui dit « Bon non, en fait, les agents nous ont juste dit, très gentiment, qu'il fallait pas qu'on réclame de l'argent, et c'est tout. » Alors certes, c'est une remise en cause du capitalisme, qui est un super système. Hein, le premier album de 50 Cent, bon, il s'appelait « Get Rich or Die Trying », pas « Viens voir ma yurte de Zadis », quoi. Hein, l'argent, c'est formidable. Si tu n'en as pas, tu n'as pas de Kinder Pingui. Mais rien, en fait, là-dedans n'a été violent. Et le truc, c'est qu'on en peut tellement plus. L'angoisse, la violence, les menaces de Daesh. Est-ce que ces gens avaient besoin de mettre leur grain de sel ? Notre époque est tellement anxiogène, comme le disent les médias, et donc ta sœur, que quand il y a un break dans ce bordel, un élan de poésie dans la nuit noire, on veut juste en profiter. Profiter de ce temps suspendu. C'est bien d'être suspendu, à part par les pieds lors des soirées de bizutage chez Ram. Ce pianiste, cette danseuse, sont en mesure de nous réconcilier avec le train, avec la vie. J'ai ajouté 1200 dates de rodage. Ouais. Tout ce que je veux, c'est prendre le TGV. Quoi. Et pour le casting de danseuse ici, bah, se présenter à France Inter après l'émission, suivez le monsieur déguisé en pénis, il vous mènera au studio.
Bravo, Tanguy Pascureau. Et Tanguy, tu vas reprendre le train puisque le 30 mai, tu seras à Montauban.
C'est vrai.
Montauban. Oui. Et Jacques Attali est en librairie avec Histoire et Avenir de la Consolation chez Flammarion, collection Chants, Essais. On a parlé de la mort, mais pas que. J'aimerais qu'on évoque juste rapidement le suicide assisté. Parce que c'est aussi évoqué, les religions, vous le dites, bannissent le suicide. Et pourtant, dans la législation de certains pays, le suicide assisté est déjà autorisé.
France... Il faut distinguer le suicide assisté et le suicide. Le suicide est un acte de liberté. Très souvent, d'ailleurs, celui qui s'est suicidé ne se serait pas si suicidé 10 minutes plus tard si quelqu'un avait été là pour le consoler,
pour le
lui
retenir,
parler ou le retenir. Donc, c'est un acte de liberté, mais comme c'est un acte de liberté particulier, puisque c'est un acte de liberté irréversible, ce qui est, le rend particulièrement grave. La vraie liberté, c'est lorsqu'elle est réversible.
Le suicide assisté.
Le suicide assisté, il faut des législations extrêmement rigoureuses, extrêmement précises. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la médecine palliative, c'est-à-dire tout ce qui permet d'éliminer la douleur et l'accompagnement. Et très prudent sur l'évolution de la loi. Tant qu'on n'a pas fait tous les efforts, ils sont loin d'être faits, tant en France qu'ailleurs, pour donner tous les moyens aux soins palliatifs.
La France ne prend pas la direction de la Belgique et de la Suisse.
Encore une fois, aussi longtemps qu'on n'a pas mis tous les moyens sur les soins palliatifs, je pense qu'il ne faut pas parler de ça.
D'accord.
Et c'est même extrêmement dangereux de parler de ça tant qu'on ne met pas véritablement tous les moyens, tant financiers que de recherche, que d'accompagnement sur ce qu'on appelle à tort les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement. Parce que très souvent, dans cet accompagnement, il y a un moment où on va découvrir que celui qu'on accompagne vers la mort, eh bien, il se trouve en situation de pouvoir être guéri ou de vivre encore plus longtemps parce qu'on a trouvé de nouveaux médicaments, de nouveaux moyens de soins. Combien de gens sont morts alors qu'on était au bord de découvrir un médicament qui allait les sauver ?
Mais beaucoup de gens et implorent aussi.
C'est pourquoi je parle des soins palliatifs, c'est-à-dire de l'élimination de la douleur.
Dans Histoire et avenir de la consolation, Jacques Attali, vous parlez aussi d'une période douloureuse, c'est le Covid. Parce que le Covid, par ses règles imposées strictes, n'a pas permis à beaucoup de gens de faire les étapes que vous évoquez, successives, importantes des rituels, pour faire ce deuil.
Il y a eu un moment particulier qui était peut-être annonciateur de quelque chose de plus général, c'est le moment où dans certains lieux, dans certains pays, on n'a plus permis aux gens d'aller voir leurs proches mourants, morts, ou même d'assister aux funérailles. Et si on voit, c'est de voir la prolongation des tendances actuelles, il est possible que les funérailles disparaissent. C'est-à-dire qu'on n'ait tellement pas envie de voir la mort, qu'on ne voit plus les gens mourir. On meurt plus chez soi, on meurt à l'hôpital et souvent solitaire. Et il y aurait une logique épouvantable, hein, ce n'est pas quelque chose que je recommande loin de là, mais qui serait de dire que dans un siècle, eh bien, on n'irait même plus dans les funérailles, qui seraient renvoyées à une sorte d'abstraction administrative pour vraiment chasser la mort de la société. C'est possible qu'on en vienne à cela. Et de ce point de vue, le Covid n'en aura été qu'une sorte de
prémisse,
de dystopie prémonitoire.
Histoire et avenir de la consolation, Jacques Attali est tout de suite dans la bande originale. C'est Alexandre Cominec. Alors Alexandre Cominec devait en réalité être présent aujourd'hui, mais il a été arrêté à l'aéroport de Cancun. Nous recevons donc un invité aujourd'hui, le cheikh Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud, présent à Paris pour fêter l'élection de l'Arabie Saoudite à la tête de la commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Bonjour Votre Excellence.
Wait. Where is the boss?
Où est Nagui le chamelier?
Ah, il est en vacances.
So they put you, Bent Al Haram?
Donc il vous a filé les clés, c'est vous le patron ?
Si on veut, ouais.
Starfullah.
Félicitations.
Vous êtes choqué alors que votre pays est classé 131e sur 146 au rang mondial des inégalités entre les sexes.
Yes, but it's because women have more rights than men.
Oui, c'est parce que les femmes ont plus de droits.
Vous rigolez, j'espère.
Wallah.
Indéniablement.
They have more rights.
Elles ont plus de droits.
They have the right to shut up.
Elles ont le droit de se taire.
They have the right to stay still.
Elles ont le droit de rester tranquilles.
They have the right to listen to their husband.
Elles ont le droit d'écouter leur mari.
They have the right to have sex with a man.
Elles ont le droit de coucher avec un homme.
We don't have the right to be deep.
Et nous, on n'écoute pas Mylène Farmer.
And when it's about the kitchen, they have the right about everything.
On leur a même construit un temple.
Oui, oui, mais enfin, elles ont le droit de conduire aussi.
Yes, but we're going to stop it.
Ouais, mais on va l'arrêter.
Yeah, before giving the right to drive, no woman has died in a car accident.
Si elles ne conduisent pas, elles ne risquent pas de mourir.
And we like women that much that we're ready to let them stay at home.
Une femme en sécurité, c'est une femme à la maison.
Vous êtes en train de nous dire que votre pays est le pays qui aime et qui respecte le plus la femme.
We respect that much women that I decided to be a qahbi.
Non.
Évidemment, j'ai moi-même décidé de devenir une femme.
I identify myself as Yasmin Ta'azabi.
Je m'identifie comme une jeune princesse.
And so what? Ah, Leïla, are you misogynist?
Non.
C'est quoi ce regard patriarcal, Leïla? Vous êtes misogyniste?
And last but not least, on the top of the pops,
oh non,
I'm a lesbian.
Et en plus, j'aime faire du ciseau.
Of course not. I'm a man. Nothing is more clever than a man.
Lol, évidemment, je suis un mec. Il n'y a rien de plus intelligent qu'un
homme. Men are beautiful, men are strong, so much better than women. Say it.
Les hommes sont beaux, forts et bien mieux que les femmes.
Feminism is an awful disease.
Le féminisme est une... Non mais mec, je t'emmerde en fait là.
This is not what I said.
Ouais, ok, et you know what I say, on est en France et j'ai un droit que tu connais pas.
What is this?
Bah celui de te dire d'aller te faire foutre.
Eh ben merci beaucoup Morgane.
Avec plaisir.
Eh ouais, bravo.
I don't like it.
You don't like it. Ben, nous, on préfère retrouver Alexandre Kominek, qui est en tournée en France, qui est tournée, en tournée en Suisse aussi. Il tourne partout.
Il tourne partout.
Il prend le train, il prend l'avion avec Tanguy Pastureau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout simplement, revenons à nos histoires et à venir de la consolation, Jacques Attali. On a évoqué les philosophes, on a évoqué aussi les grands de ce monde, les deuils et les grands deuils, les deuils ordinaires et les grands deuils qui donnent lieu à des grandes manifestations. On a parlé tout à l'heure des panthéonisations et vous disiez de façon masquée, certains considèrent qu'il y en a trop, d'autres peut-être pas assez. Est-ce que c'est important aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, de célébrer des grands hommes ou des grandes femmes?
Oui, oui, c'est très important d'inscrire tout cela dans l'histoire. Et de marquer par l'histoire l'identité nationale et d'éclairer cette histoire. Alors, est-ce que les choix ont été bien faits? Pas, ça se discute. Dans le passé, il n'y avait pas de femmes, donc c'était évidemment mal fait. Et aujourd'hui, il faut éviter d'en faire trop.
Oui. Banaliser l'événement.
Pour banaliser l'événement.
Oui. Vous avez eu des mots durs tout à l'heure sur le politique de 2024 qui agit pour sa gloire personnelle et non pas pour le bien commun. Vous avez des mots durs aussi sur la politique du moment, sur la dette. J'ai entendu vos interventions sur la politique telle qu'elle est menée dans un rapport économique et au peuple français, tout simplement, qui se sont un peu abandonnés. Le regard du conseiller politique que vous avez été, et que vous êtes sûrement encore
non,
un peu...
Je suis aujourd'hui un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, le pays que vous avez évoqué, monsieur, va beaucoup mieux et évolue beaucoup mieux que vous le laissez entendre par cette caricature, mais c'est le droit de la caricature que de le dire. Je suis un peu choqué de beaucoup de choses. J'ai l'impression que la France s'enfonce, qu'elle va mal, qu'elle fonce dans le mur en klaxonnant, que la dette va venir nous rattraper avec une grande violence, que les inégalités, la violence, l'injustice, tout ça, ça finira par exploser.
Est-ce que ça n'explose pas déjà?
Non, ça n'explose pas déjà.
C'est pas
le
déjà
pays est assez tranquille au regard de ce qu'il pourrait être, au regard des enjeux. Je pense qu'il y a... comme en 40, où le pays s'est effondré, et puis après, on a mis 30 ans à se relever, ou partiellement. La situation est très inquiétante.
Elle est redressable?
Bien sûr qu'elle est redressable, mais il faudrait pour ça une mobilisation générale, il faudrait une volonté que je ne sens ni dans la classe politique, ni plus généralement dans le pays. Il n'y a pas un sentiment d'urgence. On ne dit pas assez que nous sommes un des pays d'Europe qui va le plus mal, dans bien des dimensions, qu'on est protégé par le fait qu'on est dans l'euro qui nous masque nos faiblesses financières, qu'en termes scolaires c'est une catastrophe, qu'en termes de santé rien ne va, et qu'on file droit vers une victoire de l'extrême droite qui rendra la situation encore plus tragique. Dans l'esprit, on l'a pas essayé, un petit peu comme Pétain, on l'avait pas essayé,
oui,
on l'a essayé. Voilà. Donc tout se met en place pour que à la catastrophe actuelle succède une catastrophe pire. Il faut le dire pour essayer encore une fois de l'éviter.
Et ben voilà, on aura besoin de consolation dans ce contexte. Bien joué, bien vu, Jacques Attali. Histoire et avenir de la consolation, je le dis en riant, aux éditions Flammarion dans la catégorie, rubrique, collection, pardon, chant, essai. Il est temps de nous désoler, Lisa Delmoitier.
Absolument, Leïla. Désolée pour la carrière de Jacques Attali, l'éducation de Jacques Attali, la culture de Jacques Attali, bref, tout ce qui a été souillé lorsque dans le blind test, on a tout à coup entendu... voilà, c'est la chute de la civilisation, on pourrait dire qu'on y était. Que vous dire d'autre ? Désolé pour nos auditeurs qui ne sont pas doués à l'école et qui ont eu une lueur d'espoir en apprenant que Jacques Attali, voilà, je...
Jacques Attali.
Voilà. Jackie, ça va ? que Jacques Attali n'était pas doué à l'école non plus. Mais après, il nous a expliqué, on peut réussir à l'école sans être doué. Le secret, pas de fête, pas de sortie, pas de fun, pas de fille. Allez, voilà, bonne nouvelle. Enfin, bah oui, désolé pour Jacques Attali, le penseur, l'amateur de musique classique qui se retrouve dans la bande originale.
où tu peux pas écouter 5 secondes de piano sans entendre Chopin de Morgane Cadignan. Bienvenue chez nous, Jackie, n'hésitez pas à revenir.
Avec joie, quand vous voulez.
Bravo, bravo Lisa. Merci beaucoup à toute la bande autour de la table. Merci Jacques Attali d'être venu nous parler consolation dans la bande originale. Demain, nous recevons Farida Kelfa qui signe Une enfance française chez Albin Michel.